Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Erner. Donc, partenariat avec nos amis de Questions internationales, la livraison de ce bimestriel donc, est consacrée aux frontières, le réveil des frontières, des lignes en mouvement. Alors, on ne va pas parler des frontières terrestres avec notre invité Jean-Paul Pancratio. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Poitiers, spécialiste du droit de la mer. On vous doit d'ailleurs un droit de la mer chez Dalloz, si mes souvenirs sont bons.
Absolument.
On va parler de ces questions maritimes. Alors, on va enfoncer une porte ouverte, mais elle est haute et elle est large. La mer... où les mers de tout type, les océans, occupent 71% de la surface du globe. Il y a une quantité tout à fait considérable d'hommes qui vivent en fait à une centaine de kilomètres environ d'un littoral. Le transport maritime mondial est le transport par excellence. À l'exclusion du commerce intra-européen, il représente 90% du total en volume et 80% en valeur. Et puis nous avons parlé souvent de cela, je m'en suis rendu compte un petit peu par devers moi-même. Je me suis rendu compte qu'on avait avec Christian Lecoq, on avait parlé de l'importance de la mer en soi, avec Gabriel Wackermann de l'Europe et la mer, avec Gérard Grignon de l'outre-mer européen, etc., etc. Jean-Paul Pancratio, alors, au fond, est-ce que la notion de frontière au sens terrestre du terme peut être d'une façon homothétique appliquée à la mer, à l'espace liquide ?
Non, je ne pense pas. En fait, c'est une notion que j'ai développée aussi dans mon ouvrage sur le droit de la mer. Je trouve que le risque de transposer l'idée de frontière sur les espaces maritimes
n'est pas pertinente.
Non, n'est pas pertinente parce que ça rapporte à une idée de territorialisation des espaces maritimes. Et c'est dangereux parce que ça, les États pourraient en tirer profit pour prolonger vers le large aussi loin que possible leur souveraineté. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire au-delà de 12 000 marins,
c'est-à-dire 20 kilomètres,
ou un peu plus de 20 kilomètres. 22, 23 kilomètres.
Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé
d'ailleurs? Moi, je parle de limites. Pour ce qui est de la mer, de limites maritimes.
Des limites. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce droit de la mer qui a été un peu sanctuarisé donc en 82 par la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer?
Alors,
le socle juridique.
Oui. La Convention de Montego Bay a été élaborée par ce qu'on appelle la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Il y en avait une première, c'était la première codification de toute l'histoire de l'humanité en droit de la mer, c'était en 1958, où la première conférence des Nations Unies a élaboré quatre conventions sur la haute mer, sur la mer territoriale, sur la pêche, sur le plateau continental. Et puis, il y a eu une deuxième en 60, à Genève toujours, qui a essayé de modifier les limites de la mer territoriale parce qu'en 58 on s'est dit bon, on les laisse à 6 nautiques, mais on verra en 1960 si on les prolonge. Et en 1960 c'était un échec, on n'a pas réussi à modifier.
C'était d'ailleurs l'époque de décolonisation, c'est-à-dire l'arrivée sur la scène mondiale de beaucoup de pays.
Absolument, mais ils étaient en train de s'installer, ces pays, ils n'avaient pas encore constitué.
Ils avaient d'autres priorités.
Et alors ensuite, en 1967, 1968, on s'est posé la question des grands fonds marins, des fonds de la haute mer, pour leur octroyer un statut particulier, qui est devenu, avec la Convention de Montego Bay en 82, ce qu'on appelle la zone, c'est-à-dire patrimoine commun de l'humanité. Mais on s'est aperçu en même temps qu'on était obligé de toucher un petit peu à toutes les autres zones. Et finalement, on a décidé de rassembler toutes ces conventions antérieure de 58 et les éléments tirés de la coutume internationale, parce qu'il y avait des normes purement coutumières nées des usages, en une seule convention qui est devenue la convention de Montego Bay.
Alors avec, on ne va pas entrer dans le détail des eaux territoriales, des eaux contiguës, comme
alors,
une bande contiguë.
On a créé beaucoup de zones.
Zone économique exclusive, et la France est au deuxième rang des zones économiques exclusives en superficie.
Oui, absolument.
Après les États-Unis. Absolument. Et puis après, il y a le plateau continent. On ne va pas entrer dans toutes ces questions-là, mais comment est-ce que les États s'organisent entre eux, finalement? Quel regard générique portez-vous sur l'application de ce droit de la mer?
Il est généralement assez bien appliqué, et même des États qui n'ont pas encore ratifié la convention, comme les États-Unis, l'appliquent à 99%. Il y a encore quelques éléments qui choquent ce pays, ou plutôt le Congrès,
Et c'est le Congrès, parce que tous les présidents, y compris Bush fils,
ah, oui.
Dieu sait s'il est, il a quand même dit il faudrait ratifier le droit de la mer.
Oui, absolument, parce que ça, c'est la plus grande puissance maritime, donc ils peuvent la faire vivre, mais ils la font vivre en fait, parce que ils l'appliquent à 99%. Mais c'est tout le problème de la répartition des compétences entre le président des États-Unis et le Congrès. Hein. C'est le Congrès qui ratifie les traités aux États-Unis. Le président a beau les signer, on n'est jamais sûr que le Congrès, s'il estime que ça porte atteinte aux intérêts actuels ou futurs du pays, va ratifier. Ça, c'est un problème. Mais d'une manière générale, pour ce qui est, par exemple, des délimitations, bien les États passent des accords de délimitation. Ou s'il y a des contentieux, ils le portent devant la Cour internationale de justice.
Il y a des accords aussi de gré à gré, par exemple, pour les délimitations des fameuses zones économiques exclusives.
Tout à fait, beaucoup. La plupart des accords sont de gré à gré, comme cela. Et depuis 1950, vous voyez, jusqu'à maintenant, il y a eu 25 litiges portés devant les juridictions internationales concernant des délimitations maritimes.
Ce qui est relativement peu.
C'est relativement peu.
Oui. Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer, il y a une organisation maritime internationale, il y a quantité, il y a des juridictions ad hoc ou celle de l'ONU en général, évidemment, pour les contentieux de la Cour internationale de justice, pour les contentieux interétatiques. Est-ce qu'on peut imaginer une organisation plus globale, alors au sein de l'ONU, hein, forcément.
Alors, au sein de l'ONU, il existe déjà une division du droit de la mer, hein, une sous-direction plus exactement du droit de la mer et des océans. Il y a l'assemblée plénière des États partis à la Convention de Montego Bay qui se rassemble chaque année sous l'égide de l'ONU. L'Assemblée générale suit ces questions. Chaque année, le secrétaire général de l'ONU présente devant l'Assemblée générale un rapport global sur l'état des océans et le droit de la mer. Et pour autant, il n'y a pas de structure véritablement bien établie.
Il en faudrait une.
De gouvernance. Alors, il y a un embryon qui est l'autorité internationale des fonds marins, des grands fonds marins, donc qui gère le patrimoine commun de l'humanité, que sont les fonds marins de la haute mer. Mais en même temps, ça reste une structure relativement cantonnée, spécialisée, technique. Alors, elle fait un travail remarquable. Elle est en train d'élaborer les codes miniers qui vont servir à de futures exploitations éventuelles. Mais moi, je suis pas très chaud pour exploiter sur le plan minier les fonds marins, parce qu'on va créer des pollutions considérables. Et puis la société civile internationale prendra son rôle en ce domaine. Mais j'ai proposé il y a quelque temps dans une revue la création d'une organisation mondiale des océans. Alors, vous savez, il y a grosso modo, je sais bien que ça fait peur aux États, une telle proposition, parce qu'il y a déjà beaucoup d'organisations internationales. Grosso modo, il y en a quelques 300. Beaucoup ne sont pas suffisamment financées. L'UNESCO, qui est à Paris, en est un exemple. Chaque année, cherche à combler son budget par des apports extérieurs. Et même l'ONU a des difficultés financières. Mais en même temps, on a su créer une organisation internationale du système métrique, une organisation de la banane. Pourquoi pas une organisation mondiale de gouvernance des océans. Je crois que les océans le mériteraient.
Merci beaucoup, Don Jean-Paul Pancratio, professeur émérite.
Avec plaisir.
À l'Université de Poitiers. Le réveil des frontières, nos amis de questions internationales et trimestrielles, à la documentation française. Vous êtes l'un de leurs contributeurs. Et puis franceculture.fr pour écouter l'émission cet été. On sera finalement diffusé donc à partir du lundi 29 août à 6h45. Il faudra se lever 5 minutes plus tôt pour les enjeux internationaux. Nos amis de France Culture, Émilie Chaudet, présentera dès 6h la tranche 6h-7h.
Et oui, car il y aura un 6-7